Going green.
They lose, Bibby's running out, Addy inside, you can see their points. Hickling runs wide, and now they're going to left thread the needle here. Two wide, they're going to go, maybe three, trying to go to the glass. Randy outside, oh, that's brave, that's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace he goes, no, he's got a slide. What a trick, what a move. Oh my goodness gracious me, Lewis Bibby, pass of the season.
Vous écoutez bien Live Sim, le podcast du Sim Racing. Je suis Franck et je serai votre hôte ce soir pour une expérience plutôt étonnante. Nous serons trois pour discuter de la journée de Jackie le 27 septembre dernier. Avec nous ce soir, Jackie, évidemment. Dois-je vraiment le présenter ?
Non. Ce soir, je suis le narrateur, disons. C'est le mot le plus juste. Et je confirme que la journée était extraordinaire.
Et nous ne sommes pas que deux. Ce soir, nous accueillons Redscape. Il a déjà participé à deux émissions avec nous. La première, Pit Stop en 2018. La seconde, au sujet des 24 heures du monde virtuel en 2022. Je suppose que toi aussi, ne t'as rien raconté ?
Non, rien du tout. Je sais juste qu'il était à Manicourt, à l'invitation de Thibault Larue, je crois.
Pas de spoil, on ne raconte rien, c'est mon rôle.
Comment tu es arrivé à être invité au volant Field Racing ?
Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle a commencé bien avant. En fait, aux 24 heures du Mans, en juin dernier précisément, j'en avais fait un podcast, vous pouvez réécouter, c'est le dernier podcast de Live Sim. J'ai la chance de ne pas être trop loin, donc quand je vais au Mans, j'essaye d'y faire quelque chose de différent, c'est la patte Live Sim, je dirais. Cette fois, j'avais dans l'idée d'organiser des petites interviews avec les nombreux sim-racers qui sont présents toujours sur place. C'était super à faire, et c'est réécoutable, hein, comme c'est notre dernier podcast. Donc, avant la course, j'ai contacté un certain nombre de personnes susceptibles de venir, et parmi eux, un certain Thibault Larue. Est-ce que tu connais Thibault Larue, Franck ?
Ah bien, non.
Et toi, Redscape ?
Oui. Bah justement, je crois que c'était ma seconde participation, pardon. Bafouille un peu au sujet des 24 heures du Mans, parce qu'il avait été invité. C'était un crossover d'ailleurs avec Parlons Sport Auto, d'un autre podcasteur, Quentin, qu'on salue.
Alors pour moi, Thibaut, c'est la personne qui m'a fait prendre l'abonnement à Sport Auto, juste parce qu'il y était. On l'a vu, je pense, à la télévision, mais alors c'est il y a longtemps, c'est au début de l'ère F1 chez Canal, dans une émission qui s'appelait Les spécialistes F1, elle a aujourd'hui disparu. Il a suivi la F1 pendant près de 20 ans, il a aussi participé, comme tu l'as dit, à quelques émissions autour du SAV de la F1 également. Pour vous donner l'histoire un petit peu sur le garçon, pendant le Covid, il a organisé avec Romain Grosjean la création de son équipe e-sport, la R8G. Donc c'est quelqu'un de très abordable. Je lui avais donc demandé s'il venait aux 24 heures et rapidement il m'a répondu que c'était pas prévu. Bon, sur l'instant j'étais un peu déçu, mais je ne désespère pas de trouver une occasion pour l'inviter dans Live Sim. Et quelques mois plus tard, il me contacte sur Twitter. Je vous lis son message. Salut, ça te dit de venir à la finale du volant F4 de Field Racing le 27 septembre prochain à Manicourt ? Le volant Field Racing, une autre corde à son arc. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ?
Ouais, j'en ai entendu parler il y a quelques années de ça maintenant. Hein. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans que ça existe et il me semble qu'il n'y a pas un certain Jacques Villeneuve.
Il y a un certain Jacques Villeneuve, ouais, et Patrick Depailler également. Ouais.
Voilà, Patrick Depailler, j'oublie toujours le deuxième. Et c'était surtout le truc de Jacques Villeneuve qui m'avait un peu hypé. Mais c'est un volant, je crois. C'est un volant détection jeune talent pour ceux qui n'ont pas trop les moyens pour le sport auto. Je crois que c'est un truc comme ça, non ?
Ouais, on peut dire ça. Alors Thibault, lui, dans cette organisation-là, il est le responsable communication du volant. Mmh. Donc c'est fondé, comme tu l'as dit, par Jacques Villeneuve et Patrick Depailler, autour d'une équipe. Hein. Il y a vraiment une équipe Field Racing. Il y a des panneaux partout dans la zone de Manicourt, hein, parce qu'ils sont basés là-bas. Ils ont des Mégane F4, donc c'est la génération précédente de celles qu'on a vues, par exemple, au GP Explorer. Hein, c'est les voitures de la FFSA Academy. Ça fait 160 chevaux, c'est atmosphérique, il n'y a pas de turbo dessus, contrairement à la génération d'après. C'est une boîte séquentielle avec palette au volant et des pneus Pirelli. Pour la petite anecdote, comme j'ai pu regarder les voitures, comme elles étaient toutes là à être vérifiées et tout ça, on pouvait voir à l'intérieur comment c'était fait. Donc, il y a trois pédales. Moi, c'était plutôt une surprise. Donc, l'embrayage, donc, en plus. Sur des voitures un peu plus récentes, ils ont les embrayages derrière le volant. Et donc, c'est une question auquel j'ai pas la réponse, mais je me demande si ça freine du pied gauche ou du pied droit sur ces voitures-là. Ce volant, c'est vraiment le successeur du fameux volant Elf, hein, dont Patrick Depailler a été un des vainqueurs. Et c'est permettre, comme tu disais, à de jeunes pilotes de leur donner ou redonner de la visibilité pour continuer le sport auto. Je crois pas me tromper, mais Thibaut m'avait dit c'est le volant de la dernière chance, quoi.
Ah oui, d'accord. Donc, oui, qu'on comprenne bien quand même un peu le concept et tout ça, on n'est pas face à des gens, je sais pas moi par exemple, j'ai envie de me lancer, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de me lancer, j'apporte, je sais pas parce que j'ai fait un emprunt à la banque, et je me lance dans ce volant là, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est
si,
pour
si,
des
si,
jeux.
C'est possible.
Ah, c'est possible, d'accord.
C'est possible quand même, malgré tout, je pense qu'il y a, il faut avoir quand même une carrière, alors, soit dans le sport auto ou avec du karting où il y a des détections comme ça.
Ouais.
Après, j'imagine qu'ils sont abordés. Ça, je ne sais pas, je fais que supposer. Tu peux quand même y participer parce que tu vois, il y a des sim racers qui ont participé.
D'accord.
J'y reviendrai plus tard. Donc moi, la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, je me la suis posée longtemps parce que c'est assez loin de Rennes pour y faire un aller-retour dans la journée. Donc,
oui, c'est pas la porte d'à côté.
Ouais, je me suis quand même dit, c'est quand même une sacrée opportunité, donc je vais pas la louper, j'y vais.
Alors Jackie, qu'est-ce que tu attendais de cette journée?
Alors, comme pour les 24 heures du Mans, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais y faire. Quelle serait ma plus-value? Je ne savais pas en fait à quoi m'attendre. J'avais une vague idée du planning avec une heure d'essai à midi, une finale de 17h à 19h avec des courses à élimination en 1 contre 1. Alors quand je dis 1 contre 1, c'est le premier part, il laisse passer un demi-tour et le deuxième part. Donc ils sont sur le même circuit au même instant ou quasiment au même instant avec un demi-tour d'écart. Et le vainqueur était désigné avec celui qui avait la meilleure moyenne sur ses trois meilleurs tours. Donc on part sur 5 tours et les trois meilleurs tours sont comptés pour la moyenne et celui qui gagne est celui qui a la meilleure moyenne avec des courses à élimination, donc avec quart de finale, demi-finale et finale. Donc comme la ligne éditoriale de l'AFSIM tour autour du sim racing, j'avais déjà surveillé le volant feed racing car des sim racers que je connaissais avait tenté le coup. Je pense notamment à Thibaut Casaumont ou Thomas Sibilia, que moi j'avais rencontré déjà une première fois et j'avais bien vu que c'était un avion de chasse. Ils n'ont pas gagné le volant.
Ils n'ont pas gagné le volant, pourquoi d'ailleurs? C'était pas ça, ils n'étaient pas dedans, ils n'étaient pas...
Alors, moi j'y étais pas, mais en discutant avec Patrick Depailler, il m'avait dit que cette année il n'y avait pas de sim racer. C'était plutôt des gens qui venaient du kart. C'était vraiment le hasard. Il n'y a pas eu de sim racer qui a été présenté, qui avait du talent sur la finale. Alors peut-être que sur tous ceux qui se sont inscrits, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais il y avait sans doute des sim racers parmi eux. Mais des vrais sim racers qui n'avaient fait que du sim racing, il n'y en avait pas en finale en tout cas.
Mais sur les autres années, il y en avait eu.
Ouais. Thomas et Thibaut, ils étaient en 2021.
D'accord, ok. Ouais, ça fait quand même deux ans qu'il n'y a pas eu de...
Ouais, parce que l'année dernière, les noms que j'ai vus, c'est pas des noms que je connais en sim racing. Alors, je connais pas tout le monde. Hein. heureusement.
Oui, on doute un peu.
Comment tu t'es préparé à la journée?
Quand j'arrive dans un événement comme ça où je connais pas tout le monde, enfin pas grand monde même en l'occurrence, la première chose que je fais, c'est j'essaye d'aller sur leur site internet pour voir ce qui peut être récupéré comme information. Et donc cette année, je savais qu'il y avait 53 pilotes, 14 nationalités différentes qui ont tenté le volant. Bon, l'inscription, elle est pas donnée. Hein. C'est tu disais, tu fais un emprunt à la banque. C'est un petit emprunt quand même. Hein. C'est 16 000 euros.
Oui.
Ah oui, quand même. Ouais, alors, ouais. Il y a de la formation en fait. Hein. Ils roulent ensemble. Ils sont coachés par Feed Racing pour pouvoir avancer. Mais à la fin, c'est pyramidal. Hein. C'est-à-dire que les meilleurs restent, les moins bons s'en vont. C'est comme ça que ça marche.
Et remboursent la banque.
Ah bah, disons que les 16 000 fois 54, j'imagine que c'est le chiffre d'affaires qu'ils font dans l'année, quoi.
Oui, parce qu'il faut bien qu'ils financent aussi de l'autre côté. Donc.
Exactement. Le vainqueur, parce que c'est ça qui compte, le vainqueur a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il gagne une année à la FFSA Academy.
Oui, donc c'est loin d'être un mauvais prix, quoi, pour le coup.
Moi, alors, je connais pas le prix exact, mais bon, j'imagine que c'est, on est autour d'un cadeau autour de 100 000 euros. Donc, ouais. c'est pas un petit cadeau. Et
pour une saison complète, tu parles.
Pour une saison complète, complète, je crois que c'est 7 week-ends avec 3 courses par week-end. Donc, 3 courses de 25 minutes en général. Donc, depuis 2019, le palmarès montre que certains des vainqueurs et même des finalistes sont de bons pilotes. À tel point que des équipes de course, et c'est ce que j'ai vu au volant, Feed Racing, le jour le 27 septembre, il y a des équipes qui viennent faire leur marché pour récupérer ceux qui ne gagnent pas. Et au vu des nombreuses personnes présentes dans la Nièvre, je pense que le volant est désormais dans une phase de reconnaissance de la formation. Parce que parmi les participants, je vais vous donner des noms. Alors certains, moi, je ne les connais pas du tout. Je ne suis pas un spécialiste des formules de promotion. Mais il y en a certains que tout le monde connaît. Donc, il y a Pépé Marty qui a été vainqueur en FIA F3 de 2023. Lorenzo Fluca, les deux-là, hein, je ne les connais pas, qui a fait un podium en 2023 en Freca. Dorian Pain, donc, que tout le monde connaît, évidemment, qui a gagné les 24 heures de Spa, mais qui a roulé au Mans, en Wake. Enfin, voilà, c'est un des espoirs que le sport auto a en France, surtout chez les femmes. Enzo Peugeot, donc, qui est vice-champion FFSA Academy en 2023.
De la famille Peugeot?
Non.
Si,
de la famille Peugeot, mais je pense pas que ce soit la même famille que Peugeot. Je l'ignore. Hein.
Ah, mais c'est peut-être une branche de la famille Peugeot qui sait.
Donc lui, il est vice-champion, ce qui est quand même pas rien. Il a terminé quatrième du volant Feed Racing. Il m'a expliqué que quatrième, bah, il s'est chié dedans parce que s'il y avait un gros enjeu, il n'a pas réussi à être vite. Pourtant, il était, je pense, le plus vite cette année-là.
C'est clair que tu dois avoir les boules. Hein.
Ouais, c'est clair.
On peut te permettre de poursuivre ta carrière. Et donc, si jamais tu échoues, on va pas dire que tu as droit qu'à une seule chance. Mais globalement, des occasions comme ça, ça ne se représente pas comme ça tout de suite.
Non,
quoi.
Non, exactement. Et donc, Kevin Forster, qui était le vainqueur de l'année dernière, qui a terminé troisième de la FFSA Academy pour sa première saison. Donc, c'est un jeune pilote aussi très rapide. Enzo, c'était sa deuxième année. Il termine deuxième, et c'est sa deuxième année. L'année prochaine, il sera en Freca. Il aurait pu être chez Hart s'il avait gagné.
Mais... Alors, moi j'ai envie de te dire, t'étais à Nevers-Manicourt, on est d'accord. Enfin, je sais pas ouais. D'ailleurs si le circuit s'appelle encore comme ça, parce que moi je me souviens dans mes... parce que je suis vieux. Bon, peut-être pas aussi que les présentateurs de ce merveilleux podcast, mais je suis vieux. Mais moi, j'ai toujours en tête le Nevers-Manicourt. Donc, je sais pas s'il s'appelle toujours comme ça.
Il s'appelle toujours comme ça, en fait. En fait, Nevers, c'est la ville qui a la grande ville à côté. Et
c'est ça.
C'est Manicourt, en fait. Qui est...
Ouais, c'est ça.
C'est une grande zone. Hein. C'est-à-dire qu'il y a.
Oui, c'est une technopole un peu. C'est ouais, un peu c'est comme un le Mans, en fait.
Ouais, voilà. Ouais. Comme c'est au milieu de nulle part, c'est vrai, hein, je fais pas un affront en disant ça, dès qu'on s'approche du circuit, en fait, on ne voit plus que des bâtiments qui sont de la course automobile. C'est vraiment, il y a vraiment plus que ça. Au Mans, quand on est à côté du circuit, il y a d'autres bâtiments et tu ne sais pas forcément si c'est pour le sport auto. Là, vraiment, tu vois, c'est écrit dessus. Et ça fait d'ailleurs partie d'un de mes regrets. Chez Migal, il y a une filiale qui s'appelle Venim, je crois. Ils font des pédaliers pour le sim racing. Donc, c'est des pédaliers qu'il y a dans les voitures de course qu'ils ont un peu modifiés pour de manière à avoir un accélérateur, un frein et un embrayage en option. Mais surtout, c'est un pédalier avec un capteur de pression à l'eau de sel. Donc, et c'est de très bonnes factures. Donc, j'avais pas mal de temps sur place. J'aurais pu aller les voir si je les avais contactés avant, mais j'ai complètement zappé.
Mais du coup, Jackie, j'imagine que tu as dû rencontrer du beau monde. J'aimerais savoir, moi, quelles sont les personnes que tu as rencontrées sur place. Alors, du beau monde ou pas, d'ailleurs, hein, se dit en passant, mais j'imagine que tu n'as pas vu Jacques Villeneuve.
Si, j'étais arrivé en avance.
Tu lui as claqué la bise?
Non, il a fait le tour du groupe où j'étais en train de discuter, enfin, où ouais. J'étais en train de taxer la conversation. Enfin, oui. J'étais là, quoi. Il commence par me saluer, donc il me serre la main. Il fait le tour des gens. Et il revient vers moi, il me salue une deuxième fois.
D'accord. Ça fait quelque chose de saluer un, je rappelle quand même, champion du monde. Hein. Quoi que ce soit qu'on pense de Jacques Villeneuve, hein, voilà, on n'est pas là pour débattre. Mais ça fait quelque chose du coup de rencontrer un champion du monde de F1.
Je ne suis pas un fan inconditionnel de Jacques.
Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
Loin de là. Pourtant, L'impression que j'ai eue, parce qu'en fait, il a fait des interviews, il y avait Canal qui était là pour faire quelques images et quelques sons, c'est qu'il est vraiment nature comme il est à la télévision. Mais vraiment, ça transparaît, il discute avec les gens. Il est vraiment comme à la télé, je ne sais pas comment je peux dire ça autrement. Donc, plutôt ouvert, plutôt à l'écoute des gens, voilà. Donc, il a fait quelques interviews. Il a parlé de Max, Verstappen, évidemment, pour dire que tout le bien qu'il pense de lui. Sincèrement, je pense que c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire, c'est passé, cette interview-là, elle est passée, pendant le Grand Prix de la semaine, pas de la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Enfin, l'avant-dernier Grand Prix. Donc, il était à Nevers avec, à en parler. Alors, qui j'ai vu? Alors, ce qui est bizarre sur place, en fait, j'avais l'impression d'être dans un mariage. Tout le monde se connaît, et puis moi, qui connais personne, ou quasiment, je m'incrustais dans des groupes, je me présentais, et puis si jamais le Sim Racing leur parlait, je restais un peu à discuter. Alors, j'ai vu qui? Alors, j'ai d'abord vu... Et ça, c'était moi, j'étais assez surpris de voir ça. J'ai vu pas mal de jeunes, mais des jeunes actifs, pas des gamins, mais enfin, si, pour moi, c'est des gamins, des jeunes de 20 ans à peu près, et qui suivent attentivement les catégories de promotion. Ils pouvaient citer les noms de, je sais pas, 40 personnes que moi je connaissais pas. Donc notamment, il y en a un, c'est Antoine Lamarque. Il a un site qui s'appelle Passion Sport Auto, ou Alexandre Herbin qui travaille pour Auto Hebdo. Alors j'ai vu Patrick Depailler. Hein. En discutant avec lui, j'ai compris qu'il n'utilisait pas le Sim Racing pour les formations. C'était un choix. Il travaillait à l'ancienne avec Jacques. Donc il faut savoir que pendant toutes les formations qu'ils font auprès des jeunes apprentis, je ne sais pas comment on peut les appeler, les jeunes pilotes, ils sont sur le circuit club. C'est un petit circuit qui est à l'extérieur du grand circuit de F1, et ils se déplacent à différents points du circuit pour voir comment les pilotes passent. Et après, ils débriefent, ils donnent des consignes, ils essayent, ils reviennent voir si la consigne est appliquée, etc., etc. J'ai vu aussi Renaud Derlot. Enfin, si vous suivez la F2 ou l'IndyCar, il est consultant pour Canal.
Ouais, ça me parle. Ouais. Enfin, à l'époque où j'avais encore Canal pour suivre la F1. Ouais.
Il est coach de pilote. Il coachait d'ailleurs un des pilotes qui était sur place. J'ai pas mal discuté avec lui parce que il a un énorme simulateur. Il m'expliquait que le volant, comme la pédale de frein par exemple, était très très dur sur son simulateur. Et le but, c'était de permettre d'évaluer leur capacité d'adaptation à ceux qui essayent son simulateur et les préparer mentalement, les forger aussi musculairement pour que leurs jambes soient capables d'avoir une attaque de frein la plus impactante possible au moment où la voiture ne risque pas de bloquer le pneu. Et faire un dégressif avec une pédale à plus de 100 kg, c'est pas aisé non plus. Donc c'est là où je divergeais avec Renault, parce que moi je suis pas un pilote, je reste un joueur, et une pédale à 100 kg, je suis pas capable d'être constant. Donc c'est pour ça que moi je vais pas devenir pilote champion du monde ou champion de France ou champion de je sais pas quoi. Moi ça reste un jeu, hein. Sinon j'ai vu aussi Gilles Guéniaud. Lui il est plus connu, on va dire, je sais pas comment dire ça. Il est connu depuis plus longtemps que tous les autres. Pour vous donner une idée de son âge, il était directeur de la communication de Balestre, qui était président de la fédération de
la FISA.
La FISA, exactement.
La FISA,
Avant la FIA. Ouais. Il a des tonnes d'anecdotes, et il nous a notamment raconté l'histoire de la première Viper aux 24 heures du Mans. Est-ce que vous voulez que je vous la raconte?
Allez, vas-y. On te sent chaud, vas-y.
Alors, Viper, vous connaissez, c'est Chrysler qui faisait la voiture. Et lui, il arrive aux États-Unis et il voit que la voiture, elle est géniale. Je la raconte de tête, là. Je suis arrivé en cours d'anecdote, donc je n'ai pas forcément tout à fait le début. Il fait venir deux voitures en Europe. Le patron de Chrysler était contre que les voitures fassent le 24 heures du Mans. À ce moment-là, on était en janvier. La course avait lieu en juin.
Tu parles de quelle année, par contre?
L'année, je ne sais plus. Ils avaient plusieurs problèmes sur cette voiture. Le premier, c'était que la voiture était lourde. Le second, c'est que la voiture, elle n'était pas homologuée pour rouler en Europe. Donc, si elle n'est pas homologuée, elle ne peut pas faire les 24 heures du Mans. Et le moteur n'était pas adapté à une voiture de course. Donc, c'était quand même pas mal de problèmes. Et on était à plus ou moins 5 ou 6 mois de la course. Donc, Gilles s'est débrouillé parce qu'il connaissait quelqu'un à la fédération, pour faire passer les voitures vraiment en douce aux mines. Il est allé chercher quelqu'un chez lui, il l'a emmené aux mines, ils ont passé la voiture en toute discrétion pour la faire homologuer sur la route. Une fois que ça s'était fait, il est allé en Belgique auprès de quelqu'un. Alors, il a cité le nom, mais moi, je ne pourrais pas le retenir. Pour coursifier la voiture, rendre le moteur plus léger, plus fiable. Enfin, voilà, vraiment coursifier la voiture, la boîte également. Et aussi, quatrième problème qu'il avait, la voiture n'était pas inscrite au 24 heures du Mans.
Bah oui, il faut, et puis il faut quand même des conditions particulières pour pouvoir inscrire une voiture au 24 heures. Tu n'y vas pas comme ça avec ta petite voiture
mais
sous bras.
Avec toutes ses connaissances, tout son réseau, il en avait discuté avec ACO et ACO lui avait dit « Je te garde de place ». Et quand il a dit à ACO, voilà, la voiture, elle est prête, elle est homologuée, elle peut rouler. Tout le monde s'est étonné qu'il avait réussi à la passer aux mines. Et là, ils font la course.
Dans quelle catégorie ? Excuse-moi, Jackie, dans quelle catégorie ?
Alors, c'était la grande époque des GT. Je pense, on pourra regarder après, mais...
GT1 ?
Ouais, ça devait être cette époque-là. Cette histoire-là fait qu'il se lance la course. Le patron de Chrysler n'était pas content du tout. Il est arrivé aux 24 heures du Mans. C'est vraiment une histoire à la Le Mans 66. Hein. Ça pourrait en faire un film. Hein. Il arrive pas content. Une des voitures est en tête et il gagne la course.
Oui, carrément.
Tu vois ? Carrément.
Donc, il l'homologue à le dernier moment, pas sûr. Ouais. Je te garde de place comme ça, sous le coude. Et bam, il gagne la catégorie, quoi.
Alors, il avait une autre anecdote. Le directeur technique de Chrysler l'a fait venir aux États-Unis. Le patron de Chrysler était quand même content, donc il lui a donné une Viper en lui donnant une clé spéciale qui était designée pour lui. Enfin, voilà. Des anecdotes comme ça, il en a plein. Enfin, voilà. Un gars vraiment passionnant qui s'intéresse au sim racing. Donc, voilà. Je vais sûrement le recontacter plus tard. Qui d'autre j'ai vu ? J'ai aussi rencontré Laurent Peugeot, le papa d'Enzo Peugeot. Donc, j'ai beaucoup parlé avec les papas, notamment celui d'Enzo, qui était dans le jury. Enzo, qui était dans le jury, pas le papa. Comme je vous l'ai dit, il a terminé quatrième au volant Field Racing en 2021. Et à Nevers, il était encore en tête de la FFSA Academy, qu'il a finalement perdu. Mais avant cela, je vais vous raconter comme le monde du real racing est vraiment petit. Je vous parlais des 24 heures du Mans tout à l'heure. Cette année, donc, par hasard, j'y suis allé avec un de mes collègues de boulot. Son fils, pour moi, fait le meilleur métier du monde. Il est responsable du simulateur à la FFSA Academy. Grâce à lui, j'ai pu y aller pendant les 24 heures. J'ai pu essayer un des simulateurs. Et figurez-vous qu'avant d'être responsable du simulateur, le fiston, il roulait en sim racing avec Enzo. Et c'est ce que m'a dit son père. Ces deux-là se sont bien trouvés. Il m'a confirmé que l'outil sim racing est une composante essentielle du real racing aujourd'hui. Tous les gamins en font chez eux. Car le sport auto est le seul sport au monde où, pour des raisons de coût ou de réglementation, il n'est pas possible de s'entraîner. Il me racontait que pour le week-end précédent, le week-end précédent, donc à Les Deux Noms, Enzo s'était entraîné un petit peu avant au simulateur chez Pirelli. Je crois que c'était un simulateur Pirelli pour pouvoir progresser sur l'usage du pneumatique. Et le week-end de Les Deux Noms, il faisait 4 degrés sur la piste. Un safety car arrive. Et tu sais ce que ça veut dire, hein, un safety car quand la piste elle est froide. Bah, les pneus, ils peuvent sortir de leur fenêtre de température. Et Enzo a été le seul à réussir à maintenir ses pneus dans la bonne fenêtre de température. Et au drapeau vert, il avait déjà repris suffisamment de temps d'avance pour gagner la course.
Il a dû leur mettre même une sacrée mine. Hein, parce que...
Ouais, parce qu'en fait, les pneus, il faut savoir qu'en F4, il n'y a pas de couverture chauffante. Les couvertures chauffantes, il n'y en a qu'en F1. Et quand tu sors des stands, il faut au moins 2 tours pour que le pneu soit chaud. Donc, à 4 degrés, je fais juste une aparté, mais c'est la température qu'il va y avoir à Las Vegas, parce que c'est une course de nuit. Bon, ce sera au mois de novembre. S'il y a une safety car, ça risque de poser un petit problème.
Ça va être drôle, surtout.
Ah oui, ça va être du patinage sur glace.
Non, mais non, attends, je me souviens très bien quand même d'une course de F1, toujours dans l'aparté, mais de F1 en Allemagne. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans de ça, où il faisait très, 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 très mauvais. Les pneus, c'était des glaçons, littéralement. Je crois que la piste était à moins de 10 degrés. Il faisait super moche le jour-là. Je me souviens qu'il y avait encore Vettel chez Ferrari.
Oui, donc ça fait 2-3 ans. Ouais.
C'était à Hockenheim. Et je me souviens qu'ils avaient eu beaucoup, beaucoup de problèmes pour relancer la course, parce que les pneus étaient des vrais glaçons, quoi. Et tout grip, toute monoplace que tu as avec un grip mécanique qui est très important, bah, si tu peux pas réchauffer tes pneus, tu peux pas, quoi. Fin de la partie.
Et donc, en reparlant de la FSA Academy, donc j'ai rencontré Chloé Blossier, la responsable sportive de la F4 karting à la FFSA Academy. Je l'avais rencontrée au Mans, déjà pendant la course des 24 heures, mais je n'avais pas dit qui j'étais. Alors que là, je sais qu'elle était dans le jury du Volant Field Racing, donc je me suis donc présenté en bonne et due forme, et j'espère bien qu'on pourra faire quelque chose là-bas. J'aimerais bien faire une interview live sim pour comprendre en fait en quoi le simulateur est quelque chose de super important là-bas pour les jeunes pilotes.
Moi, je vais quand même te poser une question avant de passer à la question suivante. Là. Quand tu es arrivé sur le circuit de Manicourt, tu as pu voir le circuit F1 également ?
Ah ben, en fait, ils ont roulé les gamins sur le circuit F1.
Du coup, tu as pu le voir ?
Le circuit, il est utilisé. Alors, il était utilisé depuis 2-3 jours par une autre entité qui faisait rouler des Formules Renault 2.0, donc des petites voitures un peu plus puissantes que les F4, je dirais, dans les 200 chevaux. Donc, tu vois, par des gens qui payent, on va dire, leur place juste pour avoir la sensation de rouler dans une voiture de course sur le grand circuit. J'ai discuté avec quelqu'un qui était allé au briefing pilote là-bas. Il leur disait qu'il fallait faire super gaffe, fallait pas casser la voiture, etc., etc. Parce que l'après-midi, une fois qu'ils étaient entraînés entre gros guillemets avec la F2, ils roulaient sur des F1. Donc des vieilles F1, donc il y avait la Williams de Pastor Maldonado, pour donner un ordre d'idée. Il y avait la Benetton de Michael Schumacher, je pense que c'était ça. Il y en avait une troisième qui était là aussi. Et là, autant ils attaquaient sur les Formules Renault 2.0, autant sur les F1, on les voyait juste accélérer, ils freinaient pas. Il laissait la voiture ralentir, mais il freinait à aucun virage. Enfin, nous, de ce qu'on voyait, hein, il freinait à aucun virage. Et dès que la voiture avait le volant droit, il remettait gaz à fond, et voilà, quoi. Donc, ça devait être frustrant quand même, parce qu'il ne pilotait pas, il la conduisait, en fait. Ou il se faisait conduire par la voiture.
En fait, ma question, elle était autour du circuit, pour savoir si quand tu es arrivé là-bas, le circuit réel, en fait, par rapport au circuit virtuel qu'on connaît bien, tu as eu comme ça tout de suite une identification, une reconnaissance du circuit, et ce qui nous permettrait de nous aider à comprendre un petit peu pourquoi les jeunes pilotes, quand ils apprennent à rouler en réel, ils s'entraînent sur un simulateur avant, et que justement ce travail de reconnaissance devient automatique, ou si tu as quand même du travail à faire de changement de repère à prendre sur le vrai circuit par rapport à ce que tu as dans les jeux, tu vois, dans les simulations. Est-ce que tu as identifié des choses comme ça en arrivant là-bas ?
Alors, le circuit a l'air d'être bien modélisé. Visuellement, il ressemble à tout ce qu'on a vu. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé sur Manicourt. Par contre, n'ayant pas roulé dans une voiture de course sur place, je ne peux pas te dire si c'est correctement modélisé, en fait. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on était dans les zones des stands. On ne s'est pas déplacé sur le circuit pour aller voir d'autres zones. Mais on restait dans les zones des stands. Il n'y avait pas la télévision, c'est ça qui était dommage, parce que quand il y a des accidents, on ne sait pas ce qui se passe. Malgré tout, je pense que c'est fidèle, parce que on avait vu, si tu veux, sur la chicane, un peu plus loin, le virage d'avant, je crois que c'est le virage du lycée, on le voyait aussi. Et la chicane, je me souviens que quand on roulait dessus en n'importe quel véhicule, ça sautait pas mal. Et je voyais les F4, en fonction des pilotes, rebondir dessus assez fortement. C'était pas un trottoir, mais disons qu'on voyait la voiture sauter, ouais.
D'accord. Et si on revient la comparaison avec les 24 heures du Mans, j'imagine qu'au niveau bruit des moteurs, c'était peut-être une expérience aussi, j'imagine.
Alors ouais, parce que c'était des V8 qui tournaient de différentes puissances. Je pense que ils sont dégonflés un petit peu pour que ce soit exploitable et qu'ils aient pas à chaque fois à refaire les segmentations. Oui, c'est beaucoup de bruit, même par rapport à la F1 moderne. La F1 moderne ne tire pas plus de 13 000 tours. Là, on était sur la Williams notamment, je pense on était autour de 16 ou 17 000. Ça envoie du steak, comme on dit. Donc ouais, c'est des voitures qui font du bruit. Plus comment ?
D'accord. On va revenir autour de nos petits finalistes. Du coup, les 6 pilotes finalistes de 2023.
Alors, les demi-finales ont lieu un peu avant la finale, évidemment, et elles avaient lieu sur le circuit club. Leur temps était diffusé sur des articles, donc je me les suis procurés. Donc, on a 6 pilotes. Le plus jeune d'entre eux, donc je crois qu'il avait 14 ans, c'est l'Irlandais Alex O'Grady. Il était en 1-8-0. Et le meilleur, donc Augustin Bernier, il était en 1-7-1. Donc, c'est des voitures qui sont pas très puissantes. Donc, il y a moins d'une seconde d'écart entre les 6, ce qui prouve bien la densité du plateau. Le deuxième, Sam Balota, alors quelle nationalité lui, je ne sais plus.
Belge, non ?
Je crois qu'il est belge, ouais.
Ouais, les Belges valent Ottawa.
Ouais. Donc lui, il était en 1,7.4. Donc à 2 dixièmes, un peu plus de 2 dixièmes de d'Augustin. Donc sachant qu'au final, tout ce qu'ils avaient appris sur le circuit club ne leur servait plus. Parce qu'ils allaient rouler sur le grand circuit. Et donc essayer de réussir les meilleurs, trois meilleurs temps à chaque fois. C'est des séances de qualif régulières, quoi. C'est comme ça qu'il faut les prendre. Alors, sachant qu'ils ont eu, juste la veille, ce qu'ils appellent la finale à blanc, où ils roulent. Alors, je ne sais plus qui avait gagné. Ils avaient donné les temps, mais pour la finale, ils sont allés plus vite que ces temps-là. Donc, au bout du bout, bon, vous savez sans doute que c'est Augustin qui a gagné, hein, donc, il était le meilleur avec les demi-finales. Comme je dis, je ne sais plus s'il était le meilleur aussi à la finale blanche. Mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour lui. Faut pas l'imaginer. Je crois que c'est au dernier run. On a eu un drapeau rouge. Alors, c'est assez inquiétant quand on voit un drapeau rouge, hein, surtout quand on sait qu'il n'y a pas tellement de commissaires sur la piste. Normalement, un drapeau rouge, c'est synonyme d'élimination si tu abîmes la voiture. Et on savait que c'était Augustin qui était concerné parce que l'autre pilote était rentré pour ramener sa voiture. Et en fait, Augustin a eu de la chance parce que c'est sur le passage d'un vibreur, le moteur s'est coupé. Donc, il n'a pas pu le redémarrer. Enfin, il n'a pas osé le redémarrer. Donc, il a laissé un commissaire arriver pour qu'il appuie un peu plus fort sur le démarreur, pour qu'il puisse redémarrer le moteur. La voiture n'avait rien. Elle n'était même pas allée hors piste. Mais il a quand même pu recommencer son run avec des pneus qui étaient finalement un peu plus abîmés, comme son vis-à-vis, hein, évidemment. Mais pourtant, il a battu ses temps de secteur sur chacun de ses 5 tours, et notamment un énorme dernier tour où il a mis 3-4 dixièmes en moyenne à son dauphin. Et ça prouve, pour moi, ça prouve quand même sa force mentale parce que à 15 ans, il s'est relevé de ce petit... Enfin, ils ont besoin quand même d'avoir des repères et d'être réguliers, de pas avoir des choses qui leur polluent la tête. Et malgré tout, bah, il a fait que des temps canons, ce qui prouve bien qu'il a la trempe... Enfin, pour moi, il a la trempe d'un champion.
Et du coup... Tu l'as rapidement évoqué un tout petit peu en avance, là. On peut se poser la question de l'outil SimRacing. Quelle est son importance dans le processus, ou en tout cas dans le volant FeedRacing?
Alors, pour le volant FeedRacing, il n'y en a pas. Par contre, je sais que tous les gamins, ils roulent tous avec des simulateurs. J'ai discuté avec le papa d'Augustin. Je sais qu'il roule, il roule en simulateur. Son père me l'a dit. Évidemment que ça leur sert. Ça sert pas comme je l'aurais imaginé, parce que moi je m'attendais. Enfin, dans mon esprit, c'est ce que j'aurais aimé, c'est que le sim racing soit un outil de détection. J'en parlais avec Thibaut, mais dans une autre conversation. Aujourd'hui, si tu as pas 10 millions de dollars, tu pourras jamais arriver aux portes de la F1. Et en arrivant aux portes de la F1, il faut quand même que la porte s'ouvre et qu'il y ait des places de disponibles. Sinon, tu n'y rentreras pas. Donc, une saison en karting, c'est 100 000 euros. Une saison en F4, c'est au moins 100 000 euros, 120, 130 000 euros. Ben, voilà, c'est des coûts qui sont faramineux à supporter par les parents et les sponsors. Papa Denzo, je pense, gagne bien sa vie. Il est étoilé Michelin. Mais malgré tout, il n'a pas 100 000 euros à mettre par an pour son fils. Il est obligé de chercher des investisseurs et pour pouvoir faire rouler son fils, quoi. Donc, c'est pas aussi facile que ça. Moi, je m'étais dit, dans le modèle pyramidal, si il y a peu de monde qui sont capables d'arriver à la F1, c'est parce qu'il y avait peu de monde en F2, enfin, du monde un peu plus, mais jusqu'au karting. Mais en France, je ne sais pas s'il y a 1000 licenciés en karting.
C'est sûr et certain qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas 1000, c'est tout petit.
C'est un tout petit monde. Et c'est ce que j'ai vu d'ailleurs au volant Field Racing. Tout le monde se connaissait. Alors moi, je connaissais pas grand monde, mais je voyais bien qu'il y avait des interactions, tout le monde avait discuté, tiens, ça va, comment tu vas, qu'est-ce que t'as fait au week-end dernier, t'es allé où, enfin voilà, ils discutent entre eux, Augustin discutait beaucoup avec, les deux papas discutaient beaucoup ensemble d'Augustin et Enzo, parce qu'ils se connaissent, voilà, alors je sais pas d'où ils se connaissent, mais c'est un petit monde, c'est vraiment un petit monde. Et je m'étais dit, l'outil SimRacing, la base de joueurs, elle est énorme. C'est-à-dire que sur E-Racing, il y a plus de 30 000 personnes au monde.
Oui, d'ailleurs, petite interruption, mais est-ce que tu sais sur quel jeu il tourne en règle générale?
Alors, je pense qu'il tourne pas mal sur E-Racing.
Ouais.
E-Racing a sorti une F3 il n'y a pas si longtemps, qui est en général, comme toutes les voitures E-Racing, elles sont assez bien modélisées et avec une physique qui est très comparable à la réalité. Mais ils peuvent aussi... Alors, je sais qu'à la FFSA Academy, par exemple, c'est le jeu qui est utilisé, c'est Assetto Corsa.
D'accord.
Et pas Assetto Corsa compétitionné qui ne fait que les GT. Là, c'est une voiture spécialement définie, donc Assetto Corsa, donc c'est la F4 dont ils ont modifié les fichiers de physique pour que ça ressemble le plus possible à la vraie F4 qui roule avec eux. Je sais que j'étais allé à Saint-Malo chez Félix, chez 2SM Pilotage, il lui fait la même chose, il est sur Assetto Corsa parce que c'est modable, c'est-à-dire que tu peux récupérer des voitures et changer les fichiers pour que ce soit au plus près de la réalité. Alors, c'est jamais aussi près de la réalité que la réalité, mais ça s'en approche.
Ouais, parce que je me souviens que Assetto Corsa, tu pouvais même y mettre des F hein, de mémoire.
Oui,
il y a toujours. Okay. C'est un jeu qui est toujours développé d'ailleurs, je sais.
Ouais. Alors, ouais. Oui et non. C'est-à-dire que, disons qu'il y a toujours des modeurs qui travaillent dessus.
Oui, mais il commence à vieillir ce jeu en plus.
Ouais, il commence à vieillir. Il y a un Assetto 2 qui sort là.
D'accord.
Sans doute en 2024. Avec des questions qui se posent hein, légitimement, c'est est-ce qu'il y aura encore du modding ?
Ah.
Donc on ne sait pas. Ils n'ont pas encore communiqué là-dessus. Mais oui, l'outil Sim Racing pourrait servir. Moi, j'aurais imaginé qu'il servirait beaucoup plus en termes de détection parce qu'il suffit d'avoir un pilote jeune, rapide, qui se fasse tester, on va dire, en real racing et qui gagne des courses et qui pourrait avoir ses lettres de noblesse. Il y a eu des expériences. Hein, je pense notamment... Thibaut, Casobon ou Thomas, mais un peu plus près de nous, en F3, il y avait Yann Mardenborough, dont on s'est servi de son histoire pour faire le film Gran Turismo qui est sorti il y a quelques semaines. Voilà, c'est lui, il a roulé en F3, il roule en Formula Nippon, je crois. Je ne sais pas s'il roule encore en Formula Nippon, mais il a roulé là-bas en Formula Nippon, il a roulé en F3. Il y avait Sem, il s'appelait, qui a roulé chez Charouse, en F2, il y a 2 ans, qui était un très bon pilote de course en sim racing. Il a fait les F1 e-sport. Bon, il était dans une petite équipe. Il n'a jamais réussi à percer. Mais voilà, un jour, ça arrivera, juste par effet de nombre, en fait. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on se sert encore du sim racing comme d'un outil, un outil d'entraînement, mais pas un outil de détection.
Ouais, je vois. Pas à la manière de ce volant qui existait à l'époque, juste. C'était quoi ? C'était PlayStation, hein, je crois que c'était Gran Turismo, hein,
la GT Academy.
Ou Nismo, je ne sais plus.
Voilà, ouais, la branche Nismo, c'est Nissan. La branche racing de Nissan.
Voilà, de Nissan, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est dommage, parce que des talents, on en a forcément dans les sim racers.
Ah oui,
c'est pas à vous que je vais l'apprendre, de toute façon. Ouais, quand même un peu de mal à vous apprendre ça.
Bah, même nous, à notre petit niveau, on a vu des pilotes qui roulaient vite au SSC. Alors, ils n'avaient pas le talent de grands aliens, mais malgré tout, on savait que nous, toi et moi, hein, Redscape,
ouais.
On n'allait pas à leur vitesse. C'est comme ça. Il y a du skills, comme on dit chez les jeunes. Voilà, il y a des niveaux que d'autres ont et que nous, on n'a pas. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Il y a toujours un vainqueur et plein de perdants. Hein.
Et il y a un alien et il y a les autres.
Voilà, exactement. Alors, quand il y a plein d'aliens, c'est un problème.
Et après, qui tu voudrais avoir en podcast ?
Ben, moi, j'aimerais beaucoup discuter avec Enzo. Alors, j'ai son numéro de téléphone, donc je vais pouvoir le contacter. J'attends en réalité qu'il ait son volant de confirmé en Freca. J'aurais bien aimé qu'il gagne la F4, mais bon, voilà, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a malheureusement été percuté dans la deuxième course, qui a fait que Evan Gilter l'a dépassé pour 3 points. C'est quand même bête, hein, 3 points d'écart. Ils sont autour de 300 points, hein. Il y a 3 points sur 300. C'est clairement quelqu'un que j'aimerais bien inviter, justement aussi avec la personne qui s'occupe des simulateurs à la FFSA Academy, parce que pour le coup, là, il pourrait m'en dire beaucoup plus sur comment ils se servent à la FFSA du simulateur pour faire progresser les pilotes. Ça, ce serait une émission qui serait formidable et j'inclurais, et là, ce serait vraiment l'émission idéale, j'inclurais Augustin, comme il a été vainqueur du volant FID, et qu'ils se connaissent aussi. L'idée, c'est que chacun d'entre eux ait des ponts entre eux qui se connaissent déjà pour avoir une bonne émission. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien monter. Ouais. J'aimerais bien aller à la FSA, comme j'en ai parlé, pour discuter de l'outil Sim Racing aussi là-bas, plutôt un reportage avec des photos, hein, pour voir comment c'est la FFSA Academy, comment le futur du sport auto français des pilotes, mais aussi des mécaniciens, parce que c'est une double formation. Il y a des formations de mécaniciens et de pilotes dans cette académie. On forme les deux. Donc voilà, ça j'aimerais bien. J'aimerais bien inviter Thibaut aussi pour parler avec lui de comment l'aspect sim racing a changé son travail. Avoir les deux côtés, le côté real racing et sim racing, doit être passionnant à entendre. Ça, c'est sûr.
Tu as pu t'approcher des voitures, toi, quand tu étais là-bas ?
Ah ouais, j'ai pu m'approcher des voitures. J'ai pas demandé à rentrer dedans. J'ai pas osé. J'ai pu discuter avec les mécanos. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'écoute un autre podcast sur la F1 qui s'appelle Grand Prix de Michael DeForest, que j'avais interviewé lors du podcast sur les 24 heures du Mans dernièrement. À une des émissions, il se posait la question de savoir si l'écrou de roue se vissait dans quel sens. Parce qu'on pourrait supposer que si tu le vises dans le sens des aiguilles d'une montre, avec l'accélération, ça va se dévisser. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah oui, très bien, oui.
Et là, comme il y avait un mécanicien qui était justement en train de serrer des roues, je lui pose la question, il avait une clé dynamométrique, dans quel sens vous tournez les écrous ? Est-ce que c'est en sens inverse ou c'est en sens normal ? Et là, il me regarde, il me dit « Ah, c'est marrant que vous me posiez la question, c'est une excellente question !» Mais vraiment, je pensais qu'il se foutait de ma gueule, hein, en fait. Il dit « Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. L'Amiga LF4, c'est des pièces de voitures de série. Donc, il y a plein de voitures de série qui sont dedans. Je crois qu'il m'a dit que c'était une fusée. Alors, la fusée, c'est ce qui porte le disque. Et le disque porte la roue. Et la fusée, c'est une fusée de Mégane. Et donc, il dit « C'est un choix qui est fait... pour que les voitures ne soient pas trop chères. Et surtout pour que les pièces et les réparations des pièces soient faciles. Parce qu'en fait, on récupère les pièces dans le réseau normal de voitures. Tu sais que si tu as une porte-fusée achetée, tu vas aller chez Renault, tu vas aller chez Ford pour autre chose. Enfin voilà, tout est comme ça. Et comme ça, ça ne coûte pas trop cher les pièces. Et il me dit, parce que c'est une voiture qui est... Il m'a dit low cost, mais où on fait attention au coût. C'est une voiture où on serre dans le sens des aiguilles d'une montre, des deux côtés. Par contre, dès qu'on... on arrive sur des voitures plus puissantes, il y a un côté qui est serré dans le sens des aiguilles de montre et l'autre côté qui est serré dans le sens inverse des aiguilles de montre. Ça veut dire qu'il faut deux types de pistolets, un pistolet qui serre dans un sens et un pistolet qui serre dans l'autre. C'est une autre mécanique et c'est plus simple pour la F4, justement, et la puissance n'est pas folle. Mais la F4, c'est mieux d'avoir justement des vis qui se visent dans le même sens. Comme ça, il n'y a qu'une seule clé dynamométrique et on se sert toujours de la même clé et on se pose pas de questions. Et si vous posez la question dans quelle situation il y a le plus fort risque de desserrage, bah, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas à l'accélération, c'est au freinage. Parce que c'est le freinage qui a une forte incidence au desserrage.
Et du coup, tu as pu voir le volant qu'il y avait dans cette voiture ?
Ouais, c'est un volant, alors très simple. Hein. Il y a quasiment rien sur le volant.
Il a quand même un écran. Hein.
Oui, il y a un écran. Il affiche le temps autour, mais il n'y a pas de température de pneus. Il n'y a rien de chose qui serait intéressante à avoir. Le temps autour, il a la différence par rapport au temps qu'on a présélectionné. Dans les jeux, ça s'affiche en vert ou en rouge si on est en avance ou en retard. Voilà, c'est ça. C'est à peu près tout ce qu'il y a en fait sur l'écran. Il n'y a pas grand-chose. Il y a deux palettes, montée-descente. Il n'y a pas de radio dans la voiture. C'est assez rudimentaire. Il y a quasiment rien qui est modifiable sur la voiture. Ils roulent tous avec le même setup. Même si les voitures étaient floquées à leur nom, ils avaient leur voiture pour... alors, il y a comment on appelle ça, un tirage au sort au début. Et après, ils roulent pendant tout le temps avec cette voiture-là. Comme ça, ils s'habituent à leur voiture. C'est leur voiture.
Alors, j'avais juste une dernière question subsidiaire, cher Jackie. Ton ressenti global par rapport au feed racing, t'en avais sans doute entendu parler de très loin.
Non, pas de si loin que ça, parce que comme il y avait des simracers qui avaient participé, j'avais quand même suivi un petit peu, ouais. Je connaissais un peu plus que le nom.
Et du coup, est-ce que ça t'a surpris, pas surpris ? Est-ce que tu ce que t'avais en tête ? Dis-moi.
Alors, ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui étaient présentes.
Il y avait beaucoup de monde ?
Ben, y avait une centaine de personnes. À peu près.
Ah oui, quand même.
Enfin, pour moi, c'était un petit volant. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Et comme j'ai dit, Gilles Gagnaud, il est venu. Alors, ce n'est pas parce qu'il connaissait quelqu'un, c'est parce qu'il sait que c'est l'avenir du sport auto. C'est un avenir du sport auto, c'est une filière qui amène les gens au sport auto. Il y avait des gens bon, de Canal, c'était aussi parce que Jacques était là et qu'il voulait faire des images pour le Grand Prix suivant. Mais il y avait quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de gamins qui étaient là pour suivre, qui suivent les formules de pronotion, qui se connaissent entre eux parce qu'ils sont là tous les week-ends. Je sais pas comment ils font pour financer tout ça parce que c'est beaucoup de déplacements malgré tout. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est le monde. Je m'attendais pas à avoir autant de monde. Après c'est un volant, je me suis pris au jeu pendant les derniers tours de la finale, la finale, on va dire, quand ils étaient plus que deux. C'était émouvant parce que tu le voyais attaquer. On est en fin de journée, il est 19h, il commence à faire un peu nuit, les moteurs sont au mieux de leur forme parce que la piste est encore chaude, l'air est un peu plus frais. Donc c'est là où il y a le plus de performance. Les voitures ont tourné toute l'après-midi, que ce soit les leurs ou les Formule Renault ou les F1. Alors même si les F1, ils ont pas mis beaucoup de grip par terre, hein, vu comment elles accéléraient. Mais voilà, c'est ça qui m'a surtout surpris. Manicourt aussi, c'est assez impressionnant parce que c'est un grand site. Hein. Moi qui ai fait, alors j'ai pas, je suis pas allé au Paul Ricard pendant que c'était en F1, mais le Paul Ricard, j'y suis allé quand c'était encore une piste d'entraînement pour les 24 heures du Mans. C'est loin de tout, hein. Enfin, comme Manicourt, sauf qu'il n'y a pas de tribunes. Là, il y a des tribunes, elles restent là à demeure. Alors, c'est pas des tribunes comme au moment où il y a des préaux protégés, on va dire, des intempéries.
Des tribunes, tout simplement.
Ouais, mais tu sais, des fois, il y a certaines tribunes qui peuvent te masquer des précipitations s'il pleut, s'il fait trop chaud, t'as de l'ombre. Les nouvelles tribunes, elles se construisent comme ça avec une toiture.
Oui.
Là, c'est des tribunes, juste des tribunes sans toiture, mais ça reste des tribunes qui sont là, qui sont permanentes. Comme j'ai dit, je rentrais dans des cercles de conversation auxquels j'aurais pas forcément pu rentrer, comme dans un mariage. C'est vraiment l'analogie, c'est vraiment ça. Tu connais personne, tu rentres dans une conversation, tu te présentes, où on te demande, t'es qui toi? Tu dis, voilà, je suis Jackie de LiveSim. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit média qui s'occupe que du sim racing. Ah ouais, alors quand ça réagit, ben, tu racontes un peu plus, quoi. Puis discuter pas mal avec Renaud Derlot, c'est celui avec lequel j'ai le plus discuté, et le papa d'Enzo, qui était là juste en voisin. Je pense que son restaurant est pas très loin. C'est vraiment, le monde du sport auto français, c'est vraiment un tout petit monde. Je m'attendais pas à ce que tout le monde se connaisse autant.
Merci à toi, Jackie. Merci, Redscape. Où pouvez-vous nous trouver?
Par quoi commencer? Dans TechCraft, le jeudi soir. Enfin, certains jeudis soirs.
Pas aujourd'hui.
pas aujourd'hui, pas tous les jeudis soirs. TechCraft, en général, ouais. Puis là-bas. Puis surtout, dans le production du label que j'ai monté avec un ami podcasteur, Feel Good, que je salue, de Toulouse, avec qui on a monté A Sound MR et plein de podcasts à l'intérieur, dont le principal, Aspect MR, est un podcast autour de l'astronomie, avec donc de la musique que je compose, puisque je suis compositeur, et une narration et des textes écrits par Feel Good. Et plein d'autres petites choses que l'on fait autour, alors pas de l'ASMR, hein, justement on prend le contre-pied de l'ASMR, mais l'idée c'est de pouvoir tout simplement transporter l'auditeur avec de la musique et des textes sur différents sujets. On vient de sortir par exemple un AZNMR sur la relaxation dans un spa, voilà, massage au spa ça s'appelle. Voilà, c'est ce que je fais le plus aujourd'hui, en ce moment, et puis bah, je peux être invité par-ci, par-là, et être dans différentes communautés podcastiques. Voilà, si jamais vous avez besoin, si vous avez besoin d'un générique, d'un jingle, d'un accompagnement, n'hésitez pas, je suis toujours disponible, si votre projet, bien sûr, est sympa, et que vous êtes sympa. C'est très important d'être sympa. Voilà. Et merci à vous deux de m'avoir invité. Pour que tu puisses compter ta journée.
Ouais, j'étais content de pouvoir le faire comme ça. Ouais, c'était.
Et je t'avoue que franchement.
Tu serais bienvenu.
Ouais. Je t'ai posé la question un peu sur Jacques Villeneuve tout à l'heure parce que bon, voilà, beaucoup de gens savent sans doute que je ne regarde plus la F1 avec Canal depuis quelques années maintenant, et que j'aimais autant le détester que l'aimer. Voilà, je respecte en tant que c'est un pilote, et parfois j'étais très d'accord avec lui, et parfois franchement c'était, et tu vois, juste pour lui serrer la pince, juste pour me dire ah, j'ai serré la pince d'un champion du monde de F1, tu vois, ça m'aurait bien trigué, je pense, voilà, comme disent les jeunes. Donc ouais, je et puis même pour rencontrer plein de monde dans ce monde-là, et on n'en a pas assez, et dans un sport comme les sports mécaniques, c'est hyper important. Donc ouais, merci de nous l'avoir raconté, en tout cas c'était super sympa.
Est-ce que tu as des projets à venir?
J'en ai toujours, tout le temps, en permanence. Oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, aussi un podcast de musique électronique, Les Abyssales. Donc je prépare gentiment Podren l'année prochaine, Podren 2024, hein, qui est un événement podcastique qui se déroule tous les ans, week-end de Pâques, à Rennes, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
Allez-y, c'est génial.
Voilà, où j'aurai sans doute la chance,
Alors, s'il vient pas, franchement, il exagère, hein, puisqu'on est quand même à côté. J'ai la chance, normalement, de rencontrer Jackie à ce moment-là.
On se rencontre avant, en général. Hein. On se voit quand même. Mais oui, c'est déjà prévu. Ma femme râle à chaque fois que je dis « Ah, on peut pas partir. » Non, non, on peut pas partir ce week-end-là.
On peut pas partir ce week-end-là. Il y a d'autres week-ends.
Exactement.
Et donc, voilà, donc Podren que je prépare toujours, puisqu'en général, je suis invité pour soit faire le samedi soir ou le dimanche, surtout le samedi soir, pour mixer. Et c'est toujours un bonheur parce qu'on rencontre les copains, les copines et tous ceux qui font le monde du podcast indépendant aujourd'hui en France, puisqu'il y a des gens qui viennent de très très loin. Et puis d'autres projets, projet d'album musical sans doute qui sortira l'année prochaine sur la base de ce que je suis en train de composer en ce moment pour un des podcasts qui marche fort chez nous, qui est Aspect SMR, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc ça va m'occuper, je pense, une bonne partie de l'année 2024, puisqu'il va falloir que je travaille très fort dessus pour pouvoir sortir quelque chose de propre à la fin. Et puis j'aimerais bien aussi un peu revenir dans le Steam Racing. C'est vrai que j'ai fait une grande carrière. Je roulais pas mal sur Assetto Corsa à une certaine époque. Et c'est vrai que du coup, ça s'est un peu brutalement arrêté. J'avais un peu recommencé tout seul cette année, où j'avais pendant un mois, j'avais fait des courses tout seul. J'avais été un peu dégoûté parce que c'est un peu comme d'habitude. Je sais pas si vous avez déjà tous les deux roulé sur Assetto Corsa Competizione. Mais quand vous êtes à Monza et que vous êtes sur des courses en ligne, des choses qui vous... Ah oui, voilà, c'est un lobby. Donc des choses qui vous partez pour une course de, je ne sais pas moi, une vingtaine de minutes, mais je me souviens parfois d'avoir participé à des sortes de petits championnats. Et donc vous vous êtes préparé tout ça. Et très bien, à Monza, la première chicane, c'est raide. Voilà, c'est qu'à de le dire. Et là, il y en a forcément un qui loupe les freins, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Il y en a forcément un qui loupe les freins et à ce moment-là, vous vous faites percuter et vous perdez tout. Et je crois qu'à force d'avoir fait ce type de course où tu fais extrêmement gaffe, tu te fais dépasser 3, 4, 5, 6 fois, mais que à la fin, on te fonce dedans, ça a fini par me lasser. Et puis voilà, j'étais un peu tout seul. C'est vrai que ce serait sympa de pouvoir retrouver un peu une petite équipe pour pouvoir rouler gentiment, pas un truc... parce que le volant, il commence à vraiment prendre la poussière. Et j'ai toujours le même volant, d'ailleurs, qui, soit dit en passant, toujours mon T150, ridicule au possible, mais qui fonctionne toujours, malgré les problèmes que j'ai pu avoir avec. Voilà pour mes projets.
Un grand merci à toi.
Mais je t'en prie, merci à vous deux. Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci également à nos auditeurs. Je vous invite d'ailleurs à commenter sur la page de l'article ou sur les réseaux sociaux, sur les sujets que nous avons abordés ce soir. D'ailleurs, où pouvons-nous vous retrouver, messieurs ?
Moi, c'est sur Twitter pour l'instant, même si je commence à me poser des questions, savoir si je vais rester sur Twitter à l'avenir.
Tu veux un code Blue Sky ?
Ah, si t'en as un, ouais, je veux bien.
Oui, bien sûr, j'en ai un. Si je te le propose, oui, bien sûr, j'en ai un.
Mais je vais aller sur Mastodon aussi. Donc, je ne sais pas si ça va rester encore Twitter pendant longtemps, de toute façon. Donc, sur Twitter pour l'instant, bientôt sur Blue Sky, hein, que si, visiblement, et puis sur Mastodon bientôt aussi.
Et puis, moi, sur Blue Sky, du coup, sur Blue Sky et sur Mastodon. Blue Sky, Mastodon, Instagram, ce sont les trois réseaux sur lesquels je suis.
Quant à nous, vous pouvez nous contacter via Facebook sur la page LiveSim et sur Twitter sur @live_sim ou bien simplement sur redac@live-sim.com. Pensez à partager autour de vous car ce podcast existe car vous l'écoutez et surtout, restez branchés. We'll be right back.